exemple là, la discothèque. Qu'est-ce que vous écoutez volontiers comme musique, vous, Maxime?
Alors, j'ai des goûts qui sont vraiment très, très éclectiques. Hein. Donc, j'adore évidemment la musique classique. Donc, quand je travaille, j'écoute souvent Mozart, Beethoven, Brahms. J'aime bien, quand je veux travailler, être un peu plus efficace, ben j'écoute du jazz.
Plutôt old jazz ou...
Old jazz, oui. Et puis, après aussi du jazz un peu plus moderne, Dizzy Gillespie, enfin de ce genre-là. Quand je vais courir, j'écoute de la techno, à l'entraînement, la techno vraiment puissante, vibrante. Et quand je fais des courses, ou que j'écoute carrément du Rammstein. Donc,
Alors, dans ces cas-là, là, on pourrait dire que vous êtes vraiment en super forme, quoi.
Oui, parce que quand on écoute Rammstein, je ne sais pas si vous connaissez Rammstein. Hein, mais...
C'est terrible.
Donc, quand on a ça dans les oreilles assez fort, on a vraiment l'impression d'être fouetté par quelqu'un qui vous dit d'avancer. Donc, c'est vraiment. Alors, et puis, j'ai le répertoire français, donc tous les grands chanteurs, Brel, Brassens. Je faisais écouter à mes enfants ces chanteurs-là. Et puis, mon chanteur italien préféré, Paolo Conte.
C'est intéressant, vous dites, je faisais écouter à mes enfants Brel, Brassens. Il n'y en a plus beaucoup des papas de votre génération qui font ça. Et pourtant, finalement, c'est presque les derniers paroliers de la chanson française. Il y a un côté aussi culturel, historique avec eux, non?
Oui, absolument, parce que en fait, c'était des poètes. Hein. Et quand on écoute Brassens avec un enfant assez jeune, évidemment qu'il capte pas toujours le sens des paroles, mais avec le temps et beaucoup plus tard, d'abord la mélodie est parfaitement intégrée, et puis ensuite ils comprennent le sens des paroles, et puis c'est une sorte de découverte progressive. D'abord la mélodie, et puis ensuite les paroles, ensuite le sens des paroles. Et j'attends ma fille et mon fils connaissent par cœur la plupart des chansons de Brel et de Brassens. Et
c'est bien la preuve que ces poètes sont, pour l'heure en tout cas, absolument pas démodés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose à aller chercher, même pour les jeunes générations chez ces gars-là.
Absolument. Alors, ils racontent la vie et ce qu'ils ont écrit dans leurs chansons est intemporel. Ça reste vrai quand on parle d'amour, quand on parle de malheur, de solitude, de joie.
De politique,
hein, des fois. Et même de politique, oui, Brassens. ça reste une brûlante actualité. Je trouve vraiment très dommage parce que là, il y a toute une... On peut dire tout un pan de notre culture, hein. Qui échappe à une partie de la jeunesse, mais je pense que c'est une partie de la jeunesse parce que, encore une fois, ces auteurs, ces interprètes sont intemporels. Mais c'est vrai que quand on essaie, moi je le vis aussi en classe avec des jeunes de 16 ou 17 ans, on essaie parfois de faire des références musicales ou à des paroles de chansons, et puis on tombe complètement à côté parce qu'ils savent juste pas de quoi on parle. Mais ça, c'est...
ça fait drôle un peu.
C'est drôle, c'est un peu dommage, oui.
On aurait vite tendance à oublier que vous donnez des cours également.
Ah bah oui, alors ça, c'est ma première personnalité. Genre je suis un enseignant, même si c'est un métier, hein, et puis qu'il ne suffit pas d'avoir la vocation. Mais je crois que je suis né enseignant. Donc... Quand j'étais gamin, même dans ma famille, mais quand j'étais gamin, c'est moi qui expliquais les mathématiques ou même le français aux autres. Et j'ai toujours eu cette vocation à vouloir expliquer les choses, et j'en ai fait mon métier. Alors maintenant, je vais enseigner un peu moins, mais je vais m'occuper d'une école qui forme les enseignants. Mais je garderai quand même, garderai ma charge de professeur associé à l'université à Neuchâtel, donc un contact avec la jeunesse et avec l'enseignement de terrain.
Maire d'une cité comme Moutier, c'est pas nécessairement toujours simple, j'imagine, pour la famille. Comment est-ce que vous avez géré ça?
Alors, c'est vrai que c'est pas simple du tout. J'en ai jamais beaucoup parlé, mais c'est vrai que Moutier, c'est une ville particulière. Il y a eu un certain nombre de personnalités à Moutier qui font de la politique de manière méchante. Les lettres anonymes, les fausses rumeurs, les attaques personnelles, tout ça a été mon lot pendant 22 ans. Et encore maintenant, et ça n'est pas fini. Et en fait... C'est vrai que c'était... je dirais que maintenant, mes enfants sont adultes et puis ils sont assez grands pour... pour supporter ces attaques, même si c'est maintenant que ça les énerve le plus. Alors, comment je les ai protégés ? De deux manières. Tout d'abord, en essayant de leur cacher les attaques dont j'étais l'objet, parce qu'elles ne valaient pas la peine. Et puis, avec un autre artifice, je dirais, qui correspond à une sorte de dédoublement de la personnalité. Quand ils étaient petits, je leur parlais du personnage qui est Zorro. Et puis Zorro, en fait, Zorro, il a un masque, il a un chapeau, il a une épée. Et puis il va se battre contre, à l'époque, c'était les colons espagnols au Mexique. Hein, donc, et puis il n'est pas très gentil. Hein, il n'est pas gentil avec le sergent Garcia, c'est un combattant. Mais quand il rentre à la maison, il enlève son masque, il enlève son épée, et puis c'est Don Diego. Et j'ai toujours expliqué à mes enfants que leur père, c'était Don Diego, c'était pas Zorro. Et que les attaques contre Zorro, elles faisaient partie du jeu, qu'il fallait les accepter, même quand on était très méchant contre Zorro. C'était pas Don Diego qui était visé.